Bonjour et bienvenue dans le podcast de Cœur à Corps, le podcast qui s'intéresse aux injonctions à la normalité en matière d'amour et de sexualité. Aujourd'hui, je donne la parole à Chris. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de témoigner, de nous raconter ton histoire. Tu as 32 ans et tu travailles dans le domaine du cinéma, donc tu es homosexuel. Est-ce que, pour commencer, on peut revenir un peu sur ton histoire, tes premières attirances? Quand est-ce que tu as compris et réalisé que tu étais homosexuel?
Au fait, on commence à réaliser qu'on est homosexuel depuis un âge très très tôt. J'étais assez jeune quand j'ai commencé à regarder les mecs, mais je le réprimais. Je comprenais qu'il y avait une attirance qui se passait, qu'il y avait un truc que je sentais, mais j'essayais de complètement refuser ce sentiment. Et donc, d'essayer de regarder les filles, d'essayer de créer une attirance physique plutôt vers les filles. Et pour moi, ça a duré assez longtemps. J'ai gardé ça jusqu'à l'âge de 20-21 ans. C'était le moment où j'ai assumé mon homosexualité. J'ai compris que voilà, c'est une attirance que j'ai. J'aime les gens du même sexe. Et donc, j'ai assumé complètement cette orientation sexuelle, disons.
Est-ce que tu as essayé de te contraindre en allant même jusqu'à avoir des expériences avec des femmes?
Je ne suis pas allé jusqu'à cet extrême, au fait. Mais je refusais complètement l'idée que je sois attiré par un homme. Donc quand je voyais des films, par exemple, et qu'il y a un homme et une femme qui sont nus dans le lit, je regardais directement l'homme. Et après, je disais non, il ne faut pas faire ça, il faut regarder la femme. Donc c'était un peu drôle à l'époque comment je contrôlais mon désir et mon regard. Mais ça ne marchait pas trop au fond, en fait, comme ça, sur la superficie, ça marchait, mais au fond, ça ne marchait pas trop. Et donc du coup, je n'ai pas eu d'expérience sexuelle avec des femmes. Mais j'ai passé quelques années de ma vie où j'avais des envies sexuelles, mais je ne pratiquais pas du tout. Donc du coup, je n'avais des expériences ni avec des femmes, ni avec des hommes. Et c'est à 21 ans que j'ai eu la première fois une relation sexuelle. Et c'est comme ça que j'ai compris plus mon homosexualité et ce désir vers les gens du même sexe.
Pourquoi c'était si important pour toi de réprimer ce désir envers les hommes? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? C'était l'interdit ultime? Qu'est-ce qui te donnait finalement cette attirance comme quelque chose d'impossible où il ne fallait pas aller?
Au fait, moi, je viens d'une famille qui est très, très conventionnelle et très, très religieuse catholique. Et donc, du coup, la religion créait une certaine barrière pour que je puisse vivre ma sexualité. Et c'est pour ça que j'essayais de réprimer un peu tout ça. En plus, à ça s'ajoute la société, les jugements sociétaux, la norme à laquelle on s'habitue de notre éducation de jeunes, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'essayais de ne pas accepter cette réalité que je sentais au fond de moi-même, mais que je n'arrivais pas à vivre. Et au moment où moi, j'ai senti que je pouvais moi-même vivre ça et accepter ça, j'ai commencé à chercher une expérience sexuelle avec un homme. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à vivre cette expérience.
Tu es libanais, ça fait 5 ans que tu es en France. Comment est perçue du coup l'homosexualité au Liban?
Oui, bien évidemment, en fait, le fait qui m'a aussi un peu empêché de vivre ma liberté, c'est que je viens d'un pays qui est assez conventionnel aussi, qui n'accepte pas l'homosexualité. À l'époque, quand moi j'avais 21 ans, c'était il y a 10 ans, 11 ans, c'était encore beaucoup plus fermé. Et donc, le fait que je sois libanais a aussi retardé, et que je vive au Liban, a un peu retardé aussi le processus d'acceptation intérieure que j'ai vécu. Et au fait, au Liban, il y a une certaine sorte d'hypocrisie, de schizophrénie par rapport à l'homosexualité. Il y a 10 ans, c'était un peu plus le refus total. Maintenant, c'est devenu une hypocrisie, parce que du coup, on sait qu'il y a plein d'homosexuels. On sait qu'il y a plein de célébrités homosexuelles, que ce soit dans le monde du design, des artistes, des chanteurs, des acteurs et tout ça. Parmi cette personne, il y a des personnes qui sont ouvertement homo, il y a d'autres qui sont, on sait qu'ils sont homo, mais ils ne l'annoncent pas. Et donc, du coup, on sait que ça existe. On sait que la société libanaise a plein de gens qui sont homosexuels, mais en même temps, dans la loi, au fin fond de la loi, en vérité, c'est illégal. Donc, du coup, tu peux être en prison à cause de ça. Si tu es attrapé dans un acte sexuel avec un homme, ou bien en train d'embrasser un homme ou une personne du même sexe, tu peux aller en prison. Et donc c'est un peu bizarre, puisque c'est accepté à la surface et c'est refusé en réalité. C'est accepté dans des milieux aisés et un peu dans des familles, disons, qui sont dans des conditions de vie plus éduquées, plus aisées et tout ça. Et c'est refusé dans des milieux un peu plus conventionnels, comme dans les villages, comme dans les familles très chrétiennes ou des familles très, très musulmanes. Donc du coup, c'est vraiment il y a une dualité qui est très, très perturbante.
Alors, comment on gère cet interdit? Est-ce qu'on doit se cacher? Est-ce qu'on peut quand même s'afficher dans les rues? Est-ce qu'il y a des sites en particulier qui permettent de rencontrer des gens? Comment on rencontre des personnes dans un pays où c'est interdit par la loi?
Au fait, c'est très drôle parce qu'on a des endroits, des gay places, des endroits homo. On a un bar qui existe depuis très très longtemps où les homos se retrouvent, mais c'est impossible de se toucher, de s'approcher, d'avoir une proximité physique. Il y a aussi des boîtes de nuit, une ou deux. Il y avait des saunas à l'époque, maintenant il y a une qui existe, je pense. Donc il y a des endroits où on peut se rencontrer. Mais ces endroits, ils font très très peur parce que du coup, puisqu'il y a cette dualité, et au fond, l'État ou le gouvernement te fait sentir une liberté, mais chaque 5-6 mois, il y a un événement qui te rappelle que c'est illégal. Donc chaque 5-6 mois, tu entends qu'il y a une boîte qui a été complètement fermée et les gens qui sont à l'intérieur ont été attrapés par la police. Tu entends qu'il y a un sauna qui a été aussi fermé et tous les gens qui étaient à l'intérieur ont été arrêtés. Un cinéma de porno aussi qui a été fermé. Donc à chaque fois, tu as des événements qui te rappellent que c'est pas permis, mais en même temps, c'est permis jusqu'à ces endroits. Et ce qui est aussi très très drôle, c'est que sur les applis de rencontres, 90% des photos qui sont postées par les gens, qui doivent représenter les gens, par exemple en France, 90% sont des visages et le reste c'est des corps. Au Liban, c'est le contraire, donc c'est 90% des corps, des torses nus, des parties du corps, ou bien des paysages, des animaux, on sait pas, des trucs qui ne montrent pas le visage, et 10% c'est des visages. Donc du coup, il faut se cacher. Si tu te balades avec un mec dans la rue et il y a une certaine attirance, tu ne peux pas l'embrasser dans la rue, tu ne peux pas tenir la main, tu vois, tous ces signes d'homosexualité, c'est impossible de le faire. Et si tu veux faire une relation sexuelle, il faut faire très attention. Si tu prends un hôtel, il faut trouver une manière de cacher le truc, de ne pas montrer que vous êtes deux. Par exemple, tu arrives, après le deuxième te suit. Donc c'est un peu compliqué. Et ce qui est aussi très compliqué, c'est que les gens au Liban n'habitent pas seuls. Il n'y a pas cette culture des jeunes qui habitent seuls. Maintenant, ça a commencé à exister, mais à mon époque, ça n'existait pas du tout. Donc, avant de se marier, tu n'achètes pas un appartement et tu ne loues pas. Donc, tu restes chez tes parents jusqu'au moment du mariage. Et quand tu es homosexuel, la plupart du temps, il n'y a pas de mariage, sauf si tu veux te marier pour te cacher et faire ça juste pour cacher ta sexualité. Mais à part ça, les gens habitent avec leurs parents. Donc, comment faire une relation sexuelle si tu habites avec tes parents? Et donc, du coup, il y a pas mal de gens qui couchent avec des personnes plus âgées. Comme ça, ils ont leur indépendance, leur maison et tout ça. Ou bien ça se passe dans des voitures, dans un endroit caché, ou bien ça se passe dans les maisons de campagne, ou bien ça se passe secrètement dans des rues, mais vraiment dans des endroits assez pas évidents, quoi.
Comment toi tu t'es projeté dans ta vie d'homme avec aussi ces contraintes-là où tu sais que tu pourras pas vivre avec un homme que tu pourrais aimer? Est-ce que ça a pu influencer ton désir de venir en France?
Pour la question concernant la France, bien évidemment. Au fait, j'ai choisi de partir du Liban déjà parce que j'avais un peu marre de vivre cette schizophrénie avec mon pays, ma famille et mon orientation sexuelle. Et donc, du coup, je voulais un pays où je sentais un peu plus de liberté et tout ça. Et j'avais ce sentiment en voyageant en Europe et surtout en France. Parce que c'est un pays que j'aimais bien, je parle la langue, je comprends. La culture française est pas mal proche de la culture libanaise. Donc, c'était un pays où je me sentais bien. Et je me sentais libre sexuellement. Donc, c'était une des raisons derrière mon choix. Moi, mes études de cinéma m'ont un peu aidé à ma libération, disons, à ma liberté. Puisque, du coup, dans le cinéma, tu apprends qu'il faut se libérer complètement, la sexualité, la nudité, la religion, la psychologie, tout ça. Donc, ça m'a beaucoup aidé à me libérer. Donc, je me suis libéré déjà de plein d'obstacles, que ce soit au niveau social, au niveau sexuel, au niveau religieux et tout ça. Et donc, quand j'ai assumé mon homosexualité, j'étais prêt pour tout. J'étais prêt à raconter à mes parents. Je ne l'ai pas fait encore, mais je suis prêt à le faire au moment venu. J'étais prêt à vivre ma vie comme je le veux. Dès que j'ai eu les moyens financiers, j'ai loué un appartement tout seul. Donc, j'ai vécu une certaine liberté. J'avais mon cercle d'amis. Je travaille dans le cinéma. Donc, même le milieu du cinéma libanais, ils sont très ouverts. Tous mes collègues savaient que j'étais homo. Tous les gens avec qui je travaille, la plupart savent que je suis homo sans problème. J'avais ma voiture, j'avais ma salle de sport, j'avais mon appartement, j'avais ma liberté, quoi. Mais ce truc avec le pays, avec la loi, il te laisse quand même sentir que tu es accepté, mais pas accepté, que tu es dans ta bulle. Et moi, je n'arrivais plus à rester dans ma bulle. J'étais content dans ma bulle, mais il y avait des trucs qui se passaient autour de moi dans la société, dans la politique, dans l'acceptation et tout ça. Et ça me gênait de ne pas les voir, de ne pas les prendre en considération. Et au moment où je les prenais en considération, je savais que je devais partir et vivre ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai décidé de venir en France. Et là, je t'avoue que je sens une certaine liberté que c'était impossible de sentir au Liban, ça c'est sûr et certain.
Alors, juste pour repréciser, donc c'était une de mes questions, tu n'as pas parlé de ton orientation sexuelle à tes parents ?
Je n'ai jamais parlé de mon orientation sexuelle d'une manière très directe. On n'a jamais eu une discussion très directe. Mais on a eu pas mal de discussions indirectes où eux, ils lançaient des phrases pour me faire comprendre qu'ils savent. Mais je pense que c'est un peu dans le registre du déni. C'est pas dans le registre du « on sait et tout va bien ». Et donc, du coup, quand j'ai décidé de déménager, habiter seul, c'était un peu une action rebelle, parce qu'à l'époque, j'avais 21 ans, les gens qui ont 21 ans n'habitent jamais seuls, tu vois, un peu tout ça. Et donc, ma mère m'a lancé une fois, genre, oui, tu penses que je ne sais pas pourquoi tu vas habiter seul, je sais ce que tu fais, j'ai vu sur ton ordi des photos, tu vois, des trucs de ce genre. Donc, c'était une confrontation assez brutale, mais pas très directe. Elle n'a pas dit le mot, je sais que tu vas. Donc, elle n'a pas exprimé ça, elle n'a pas verbalisé ça, mais pour moi, c'était assez clair qu'elle le sait. Et c'est très drôle parce qu'aussi à 2 ans, j'ai invité des amis à moi quand j'étais au Liban pour déjeuner chez mes parents. Et on parlait un peu du mariage, du fait qu'au Liban, tout le temps, quand tu vas dans des mariages, tu vois des gens et te disent « Ah, tu vas pas te marier, on aimerait bien voir ton mariage et tout ça. » Et donc, on parlait un peu de ça et qu'on avait tous marre d'entendre ça. Même les personnes mariées, ils te demandent quand tu vas avoir un enfant et tout ça. Donc, on a tous marre de cette pression un peu de la société. Et là, je ne sais pas quel ami à moi a posé la question à mes parents et... Et vous, Christian et son frère, est-ce qu'ils vont se marier ? Et mon père lance, non, Christian ne va pas se marier. Et donc, pour moi, c'était aussi une sorte de manière de dire qu'on sait. Mais de temps à autre, ils me disent quand même, quand ils voient une photo de moi avec un bébé, « Ah, ça te va bien les bébés ? Ah, est-ce que tu vas te marier ?» Ils me lancent cette phrase, mais vraiment pas fréquemment du tout et pas de pression. Donc, je comprends qu'ils le savent, mais en même temps, on ne s'est pas dit ça. Et moi, vu que je n'ai jamais eu de relations très très longues et de relations très très sérieuses, je n'ai jamais eu le besoin, senti le besoin de leur présenter quelqu'un en tant que copain ou petit copain ou amour. C'était tout le temps des amis. Je n'ai pas senti le besoin de raconter que j'étais homosexuel, surtout que je sens que maintenant, à ce stade, ça peut un peu gâcher la relation que de l'améliorer. Maintenant que je suis loin, je suis dans un autre pays. Donc si je leur raconte ça, je pense qu'ils vont avoir des idées, ils vont se culpabiliser, je ne vais pas être là pour leur dire ça va, tout va bien, ils ne vont pas voir que je vis bien ma sexualité, que je suis content. Donc ça peut un peu créer des problèmes pour eux et créer une sorte de mur entre moi et eux, et je n'ai pas besoin de faire ça. Mais je me suis dit qu'au moment où je vis une relation où j'ai envie de dire voilà, c'est mon amoureux, pas mon ami, je serai prêt à le faire sans problème à n'importe quel moment. Et je pense qu'ils l'accepteront, quoi. Et ça, c'est vraiment très important pour moi. Je pense que les deux, mon père et ma mère, l'accepteront. Après, mon frère, je ne sais pas, parce que c'est un peu plus compliqué. On est jumeaux. Donc, une relation assez spéciale. Mais et vu le Liban et un peu la fermeture du pays et tout ça, il se peut qu'ils ne l'acceptent pas facilement. Mais mes parents, ils ont accepté plein de choses jusqu'à maintenant. Ma décision de faire des études de cinéma, parce que ce n'était pas du tout la norme au Liban. Ma décision de partir habiter seul, ma décision de partir à Paris... Ma décision d'être homo, même s'ils ne le disent pas. Tu vois, donc du coup, je pense qu'ils vont l'accepter. Et ça, c'est vraiment très important pour moi.
Alors, pour revenir un peu sur ton choix de venir en France, tu disais que tu te sentais plus libre. Mais pour autant, en France, il y a donc beaucoup d'actes homophobes. J'ai vu là récemment que notamment entre 2019 et 2018, il y a eu plus de 36% d'actes par rapport à donc, l'année précédente. Quel est ton regard sur l'homophobie et le niveau d'homophobie en France ?
Je le sens bien, à Paris moins que d'autres villes, parce que j'ai visité un peu d'autres villes, par exemple à Strasbourg, on s'amusait avec un ami, on voulait juste voir un peu la réaction des gens, et c'était des visages très surpris. Donc on sent l'homophobie, on sent que c'est pas encore rentré dans les normes, c'est beaucoup plus accepté, mais c'est pas rentré dans les normes. À Paris, j'ai été témoin d'un acte homophobe, je marchais dans la rue et un mec a craché sur un mec en disant homo ou pédé ou un truc, et moi j'ai pas compris ce qu'il disait, ça m'a pris je pense 30 secondes pour comprendre, parce que pour moi c'était, tu vois, c'était un peu bizarre de voir un truc pareil dans la rue en France. Mais après je lis plein d'articles où il y a des actes homophobes et tout ça, et je le sens au quotidien, même à Paris, si tu marches, tu tiens la main d'un mec, il te regarde, sauf dans les 2-3 rues du Marais où c'est vraiment le centre des homosexuels à Paris. Mais bon, dans des autres endroits, tu le sens, tu le vois dans un resto par exemple, si tu embrasses un mec, c'est vraiment le drame, quoi. Tu le sens sur le visage des gens. Mais le fait que c'est légal dans la loi et que le gouvernement, l'État, la loi peut me protéger, c'est de là, je pense, que ce sentiment de confort et de liberté vient. Et au Liban, je pouvais faire à peu près la même chose qu'à Paris. Je pouvais me dire, ah, j'ai envie de marcher avec mon copain, je marche, mais je ne tiens pas la main. C'était juste le petit détail qui changeait. Mais le fait que ce n'était pas accepté par la loi et qu'il y a cette menace que tu peux être arrêté à n'importe quel moment, c'est de là que le sentiment de manque de liberté venait. Et donc c'est la grande différence entre la France et le Liban ou tout autre pays où l'homosexualité n'est pas acceptée par la loi. Et donc même si l'homophobie existe, et même si dans la société, l'homosexualité n'est toujours pas, ne fait toujours pas partie des normes, le fait que ça soit accepté par la loi, c'est une grande liberté qu'on a la chance de vivre, quoi. Donc ça, c'est mon avis personnel.
Ça rend les choses moins difficiles, on se sent quand même plus accepté par la société, enfin, on se sent moins rejeté, j'imagine.
On se sent moins rejeté et on se sent légal. Ça, c'est le mot que j'aime utiliser. On se sent vraiment légal. C'est comme si, par exemple, je ne sais pas, tu veux aller, par exemple, dans les pays arabes, c'est interdit de boire de l'alcool. Donc, du coup, là, tu vois, si tu bois de l'alcool, tu te sens coupable, même si toi, au fond de toi-même, tu t'en fous. Et c'est la même chose. Le Liban, même si toi, au fond de toi-même, tu t'acceptes, mais en tout cas, tu te sens illégal. Donc, tu sens qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas entre toi et la société et les lois de la société où tu habites. Et donc là, avec la société, je me sens beaucoup mieux, même si parfois je vois des regards qui sont gênants. Et envers la loi, je me sens complètement à l'aise, parce que je sais que je suis légal. Et donc je le vis beaucoup mieux, et je me permets de faire des choses beaucoup plus facilement qu'ailleurs. Et je me projette dans une relation peut-être durable, ou des relations sexuelles, ou des expériences sexuelles, que ce soit des trucs normal, des trucs sensuels ou des trucs plutôt qui vont plus vers le fantasme sexuel, beaucoup plus qu'au Liban. Au Liban, j'étais un peu, même si moi je l'acceptais, j'étais un peu coincé dans mes pratiques, disons.
Est-ce que tu es en couple aujourd'hui et est-ce que tu fréquentes justement, tu en parlais un peu, des sites de rencontres gays et je voulais savoir un petit peu est-ce qu'il y a des codes en particulier par rapport voilà, aux sites de rencontres hétéros.
On a nos codes sûrement, parce que c'est très drôle. Parfois, j'ouvre mes applis devant mes amis hétéros et parfois ils ne comprennent. Il y a des abréviations de mots qui sont utilisées par les homos qu'eux ne comprennent pas. Moi, en arrivant en France, j'ai pris peut-être 3 mois pour comprendre des mots qui étaient.
Par exemple.
Je ne sais pas, là par exemple, c'est trop la mode de baiser sans capote, parce que maintenant tout le monde est sous PrEP et donc du coup ils se sentent protégés.
Alors, est-ce que pour ceux qui ne connaîtraient pas un petit peu ce que c'est de prendre justement d'être sous PrEP, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement?
Oui, au fait, c'est un médicament qui a été créé qui peut protéger du virus du VIH et donc du sida. Et donc, tu peux le prendre ou bien quotidiennement ou bien occasionnellement quand tu as une relation sexuelle. Et il y a une certaine méthode très très précise de le faire et ça te protège du virus. Mais au fait, ça ne protège pas des autres IST. Et du coup, il y a un grand dilemme et des débats dans le milieu sexuel, homosexuel, sur le fait que la PrEP peut remplacer la capote ou pas. Mais maintenant, les mecs, puisque ils ont un peu marre de la capote, d'avoir un truc qui limite un peu le plaisir ou la sensation et tout ça, c'est très à la mode de prendre la PrEP. Et donc, du coup, et en France, c'est couvert par la Sécu. Donc, du coup, c'est assez généralisé. Et donc, les gens peuvent avoir accès à la PrEP gratuitement et faire un suivi médical avec un médecin et tout ça. Et donc, plein de mecs et d'homosexuels ont arrêté d'utiliser la capote en disant qu'ils utilisent la PrEP. Et du coup, par exemple, une des abréviations qui est très très répandue maintenant, c'est BBK, ça veut dire bareback, ça veut dire sexe sans capote. Et donc, moi, en arrivant, je ne comprenais pas du tout, en tout cas, cette expression. Il y a par exemple les petits émoticônes qu'on a sur le téléphone qui peuvent dire des choses. Par exemple, il y a le petit émoticône sur les petites gouttes de pluie. Et ça veut dire par exemple bareback, parce que du coup, il n'y a pas de protection. Il y a des gens qui mettent par exemple CHEMS, ça veut dire chemicals, ça veut dire la drogue, donc sexe avec de la drogue. Tu vois, donc il y a plein de trucs comme ça. Après, il y a les jeux de rôle, il y a actif, passif, versatile, il y a poilu, pas poilu, il y a tout ce genre d'expressions qu'on utilise et que moi je ne connaissais pas nécessairement en venant du Liban, parce que le Liban c'est plus l'anglais qui domine ce genre de conversation, et là c'est le français, donc il y avait tout ce truc à comprendre. Et en ce moment, je ne suis pas. Au fait, c'est drôle parce que c'est un peu compliqué. Parce qu'avec le confinement, ça a compliqué encore plus la situation. Parce que du coup, je suis en contact avec un mec assez régulièrement, mais il n'est pas à Paris en ce moment. Donc du coup, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Et ça a commencé juste avant le confinement. Donc je ne sais pas trop si je suis. Disons que je ne suis pas en relation régulière, mais qu'il y a un certain truc qui peut se développer ou pas. Et c'est le cas la plupart du temps, en fait. Je rencontre pas mal de personnes via les applis, dans la vie et tout ça. Et parfois, il y a des choses qui se développent pendant un mois, deux mois, et ça tombe à l'eau, ou bien ça continue 3, 4 mois, et puis ça s'arrête. Donc ça dépend. Mais pour le moment, je ne suis pas en relation stable. Et ça fait un moment, ça fait un an que je ne suis pas en relation. Et je t'avoue que moi, depuis que je suis venu à Paris, et depuis que je voyageais, au fait, même quand j'étais au Liban, je vis un peu ma vie homosexuelle et sexuelle d'une manière assez ouverte dans le sens où j'essaye beaucoup de choses. Et donc, je vais préciser plus, je vais dans des plages nudistes, je vais dans des bars homo, je vais dans des clubs homo, je vais dans des sex clubs, je vais dans des saunas. J'ai eu des relations avec des plans à trois, j'ai même eu une ou deux partouzes. Tu vois, j'ai vraiment tout essayé. Et quand je dis je vais, ça veut dire parfois j'ai été une fois ou deux fois, c'était juste pour comprendre à quoi ça ressemble et vivre la sensation et vivre l'expérience, parce que j'étais très curieux. Depuis le moment où je me suis dit oui, je suis homosexuel, j'étais très curieux d'aller très très loin dans la découverte de ma sexualité, parce qu'avant, j'avais rien vécu de sexuel. Donc j'allais très loin dans tout. Donc au début, je pense que en moyenne, je couchais avec une personne par jour. Et parfois, c'était des gens qui ne me plaisaient pas, mais c'était juste pour découvrir des choses, pour comprendre qui me plaît, qui me plaît pas, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, si j'étais actif ou passif, si j'étais versatile, si j'aimais cette pratique ou cette pratique. En arrivant en France, j'ai découvert aussi plein d'autres pratiques, comme par exemple, il y a des choses que je n'ai pas essayées, mais je sais que j'aime pas. Tu vois, des choses comme ça, comme le naturisme, comme par exemple le naturisme dans des endroits publics, ça, j'avais jamais essayé au Liban. Là, par exemple, on a le truc, l'espace au bois de Vincennes. On a, par exemple, les plages naturistes de la France, de l'Espagne, Barcelone. J'ai été par exemple dans une session de massage naturiste. Donc il y a plein de trucs d'activités qui n'existent pas, des soirées naturistes, ça existe, tout ça, ça existe à Paris. Donc j'ai essayé tout ça et il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout. Mais j'essaye au moins une fois pour savoir que voilà, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Et j'ai vécu cette expérience et j'aimerais vivre tant d'expériences comme ça parce que c'est aussi excitant d'explorer des choses, d'explorer des pistes, d'aller dans des endroits un peu inédits, quoi.
Tu aurais aussi potentiellement, mais peut-être plus tard, envie de te marier et d'avoir des enfants. Est-ce que ce modèle-là, classique, te donne également envie? Où est-ce que tu en es un petit peu là aujourd'hui?
Au fait, j'aime beaucoup ma vie de célibataire. J'aime beaucoup être seul. J'aime beaucoup le temps que j'ai que j'ai pour moi-même, dans mon appartement tout seul, dormir seul, me réveiller seul. Tout ça ne me dérange pas. J'ai trop l'habitude d'être seul et j'aime bien ça. Mais en parallèle, j'ai beaucoup d'envie d'être avec quelqu'un. J'ai beaucoup envie de partager ma vie avec une autre personne. J'ai beaucoup envie d'être en relation un peu stable. Et avec le confinement, au fait, cette idée, elle me revenait tout le temps parce que ça fait un moment que j'ai envie d'être avec quelqu'un, mais pour être très clair, ce n'est pas un besoin, c'est un désir. Parce que moi, je connais des amis à moi qui ne savent pas être seuls et qui ont besoin tout le temps d'être en relation. Moi, j'ai jamais senti ce besoin d'être en relation, mais j'ai toujours senti ce désir d'être en relation. Et donc, du coup, je n'ai pas de vide à combler, mais si la relation, c'est un plus qui peut me donner une nouvelle manière de vivre les choses, une nouvelle joie et tout ça, je suis complètement partant. Et ça fait 4 ou 5 ans que je suis complètement vraiment partant, parce qu'en plus j'habite seul, j'ai mon appartement, j'ai ma vie, mon cercle et tout ça, ma carrière. Donc je me sens prêt à partager ça avec quelqu'un. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé la bonne personne pour le faire. Mais je suis complètement prêt à vivre une relation, je suis complètement prêt à être dans un truc stable. Le mariage, ça sera pour moi une réflexion pour beaucoup plus tard, parce qu'à mon avis, le mariage, c'est un papier. Et pour moi, ce papier, ça ne peut pas. C'est pas une nécessité. Si je suis dans une relation, je suis content. Ça me suffit d'être en relation. J'ai pas besoin de ce papier pour formaliser le truc, pour légaliser le truc. Mais si au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je sens avec mon partenaire que le mariage peut ajouter un truc, ou ça peut nous faire sentir que ça peut développer la relation, parce qu'au bout d'un moment, il faut trouver des manières pour développer la relation. Et donc, au moment où je sens que ça peut développer la relation, je suis prêt pour ça. Et pour le moment, j'ai très envie d'avoir un chien, par exemple.
Tu me dis ça quand tu penses à répondre pour les enfants, peut-être.
Voilà, je dis ça parce que je pense à répondre. Donc, j'ai très envie, tu vois, d'avoir un chien. Et pour moi, c'est un test pour voir après pour un enfant. Mais c'est sûr que je n'ai pas envie d'avoir un enfant seul. Mais peut-être avec quelqu'un, ça sera une idée que je peux envisager. Parce que j'adore les enfants. J'aime beaucoup les enfants des autres. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas envie d'avoir mes enfants à moi. Mais j'aimerais bien adopter un jour un enfant si je suis dans une relation stable et tout ça, et je peux procurer un environnement sain pour cet enfant. J'aimerais beaucoup. Je ne peux pas le faire seul parce que quand même avec le travail, la vie, les voyages et tout ça, c'est compliqué. En tout cas, déjà pour le chien, je panique. Donc je pense pour un enfant, c'est encore plus paniquant. Mais à deux, je pense que c'est complètement faisable. Et j'aimerais bien adopter, au fait. Je prends le choix de l'adoption plus que le choix d'autre chose, car j'aime bien l'idée. Parce que je pense qu'il y a plein d'enfants qui ont besoin d'amour et qui sont un peu dans des orphelinats ou dans des endroits où c'est pas très heureux de vivre. Et donc, du coup, j'aimerais bien, si je veux avoir un enfant, adopter un enfant existant et ne pas moi-même créer un enfant.
Quel regard tu portes sur toutes les controverses liées au mariage homosexuel ou à la PMA? Ça suscite beaucoup de crispations. Est-ce que tu comprends ces débats passionnés autour de ces questions-là?
Au fait, moi personnellement, je pense que le mariage et les parents homosexuels, ça peut complètement fonctionner. Et du coup, toutes les problématiques, toutes les, si tu veux, les discussions qui se passent sur le fait que deux pères ou deux mères vont éduquer un enfant qui va être perturbé et tout ça, moi je pense que c'est la société qui doit commencer à accepter, à faire accepter cette chose et ça sera la normale, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de couples hétéros qui fonctionne très très mal, que du coup je pense à un couple homo qui fonctionne bien, ne pourrait pas nuire plus que ces couples hétéros qui ne fonctionnent pas bien à un enfant, c'est pas possible. Et l'enfant a besoin d'amour, que ce soit l'amour de deux hommes, de deux femmes, d'un homme et d'une femme, d'un trans, on s'en fout, il a vraiment besoin d'amour. Et donc du coup un couple qui fonctionne bien et qui peut bien éduquer un enfant et lui donner le temps qu'il a besoin et tout ça, ça peut fonctionner. Peu importe le sexe, peu importe que ce soit du même sexe ou pas. Ça, c'est mon opinion personnelle. Après, pour moi, les PMA, moi, je suis contre les PMA, personnellement, parce que, comme j'ai dit avant, je pense qu'il y a plein d'enfants qui existent déjà, qui ont besoin d'amour. Donc, pourquoi procréer de nouvelles personnes si on a l'option d'aller adopter? Et pourquoi payer beaucoup d'argent et aller faire des procédures médicales et tout ça pour avoir un enfant si cet enfant existe déjà quelque part et on peut l'adopter? Donc pour moi, je pense que l'adoption, c'est une option qui est beaucoup plus humaine et beaucoup plus logique à faire.
Que tu es active dans des communautés LGBT, est-ce que tu participes par exemple à la Gay Pride, que tu as une vie sociale orientée autour de ton orientation sexuelle?
Oui et non, puisque je ne fais pas partie d'associations homosexuelles. L'idée, elle me vient de temps à autre, mais par manque de temps et tout ça, j'ai jamais. Et en plus, je viens d'une culture libanaise qui n'est pas trop dans les associations, donc du coup jamais fait partie de groupes pareils, mais je participe à plein d'activités homosexuelles, je vais dans des clubs, dans des bars, tout ça, donc je fais partie d'une communauté qui est assez répandue. Je fais la Gay Pride depuis que je suis à Paris, depuis 5 ans, et j'adore cet événement, et je me sens très content de pouvoir le faire, et tout ça. J'ai même été dans des événements homosexuels dans d'autres villes européennes, par exemple. Des semaines d'événements qui ont lieu à Barcelone et tout ça. Donc vraiment, je. Et en plus, le fait d'être sur des applis, tu sens que tu fais partie d'une communauté très très large. Parce que tu voyages, tu peux rencontrer des gens du pays grâce à ces applis. Et moi, je voyage pas mal seul. Et quand je voyage seul, je suis pas mal sur des applis pour rencontrer des gens locaux. Ils me donnent des adresses. Parfois, on fait juste des tours touristiques. Parfois, ça peut aller un peu plus loin. Donc ça dépend vraiment de cette chose-là. Mais oui, j'ai des activités qui sont très très liées à la communauté homosexuelle, mais en même temps, mon cercle d'amis et mon cercle de gens qui m'entourent est très très mixte et j'adore ça. Et je commence à remarquer au fait aussi que même les soirées et les parties et tout ça, je préfère quand c'est mixte. Il y a une énergie qui est très très sympa qui se dégage du fait que les groupes sont mixtes, que ce soit des hétéros, des homos, des lesbiennes, des gays, des trans, des gens un peu plus âgés, des gens de plusieurs âges et tout ça. J'aime beaucoup les soirées très très mixées et les pique-niques très mixés et tout ça. Et j'ai arrêté un peu d'aller dans des endroits très très homosexuels. J'ai arrêté un peu les soirées. J'y vais tout le temps avec mes amis et tout ça, mais j'ai arrêté de me limiter à ce genre d'événements. Et j'adore quand c'est vraiment une diversité de personnes et tout ça, parce qu'il y a un truc qui se dégage qui est très très fort, et ça j'adore.
Est-ce que tu te retrouves dans les représentations qu'on fait de l'homosexualité, que ce soit dans l'art ou dans les médias? C'est souvent des stéréotypes et des archétypes qu'on nous renvoie. Est-ce que toi tu arrives à t'identifier ou est-ce que toi tu considères qu'il faut faire son propre modèle, construire son propre modèle?
J'avoue que ça m'influence un peu. tous ces stéréotypes qui passent par les médias, par tout ça. Et je pense que ces stéréotypes, ils viennent aussi de la communauté homosexuelle. Parce que, y a tout le temps des modes, des choses, des tendances et tout ça. Et ça nous influence tous. Parce qu'au fait, il y a un truc que moi, j'aime pas trop, mais que je remarque tout le temps, c'est que la communauté exclut les gens qui ne rentrent pas dans ces stéréotypes. Et donc, tu te sens un peu exclu. Et donc, déjà, tu te sens exclu un peu de la société. Et c'est se sentir exclu de la communauté à laquelle tu appartiens, c'est un peu difficile. Donc, je connais des gens, moi, qui vivent un peu à la marge de tout ça. Mais moi, j'avoue que je suis influencé un peu quand même par toutes ces tendances, mais pas au point de tout suivre. Donc, je fais ma sélection, ce qui convient à mon style de vie, ce qui convient pas, ce que moi, j'ai envie de vivre, ce que j'ai pas envie de vivre. Par exemple, la PrEP, j'entends parler de la PrEP depuis 5 ans. Et donc, c'est que dernièrement que j'ai décidé d'aller voir un médecin et de lui parler de ça et de peut-être adopter moi ce style de vie. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas adopté, mais je pense à l'adopter. Donc, je prends mon temps un peu à choisir ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Je sens aussi un peu que la communauté homosexuelle peut parfois aller vers des extrêmes un peu superficiels, que ce soit par rapport au corps, qu'il faut être musclé, qu'il faut suivre certains modèles de beauté, qu'il faut acheter ce genre de vêtements, pas ce genre de vêtements, qu'il faut s'habiller comme ça, pas comme ça. Et parfois, je sens que ça va trop vers la superficialité, et moi, ça me plaît, mais pas trop. Et donc, du coup, j'essaye de suivre un peu, mais de rester dans des limites que moi, je sens convenables pour ma personnalité. Et en parallèle, moi, j'ai pas aussi envie de me lancer dans un truc qui est dans cette superficialité totale, genre ne faire que des soirées, ne faire que des événements gays. Porter tout le temps le même genre de vêtements, aller au sport 7 fois par semaine, suivre un régime alimentaire spécifique, tout ça. Après, moi, je fais du sport, je fais des régimes, j'achète des vêtements tout le temps, mais je ne suis pas dans cet extrême de uniquement vivre ça, parce qu'en tout cas, j'ai des choses que j'aime bien, que j'ai envie de continuer dans la vie, comme le cinéma, comme les films, comme le théâtre, comme les livres que j'aime bien lire, comme les discussions un peu plus approfondies sur la vie que j'ai envie de mener. Par exemple, j'ai senti à un certain moment que les groupes homosexuels, tout le temps, ça va vers des discussions de sexe, de sexualité, de physique et tout ça. Et c'est ce que j'aime pas trop. En fait, j'aime bien ça, mais j'aime bien aussi avoir des discussions qui sont en rapport avec ce qui se passe dans le monde actuellement, la politique, le social, les problèmes, la crise, les belles initiatives qui ont lieu, la culture, comment ça se développe dans ce pays, dans l'autre pays. Si je rencontre une personne qui vient d'un autre pays, j'aimerais bien parler un peu de sa culture, et de ne pas me limiter juste au sexe. Et je sens que les homos se limitent un peu, la plupart du temps, ça se limite à ça, et j'ai pas envie de se limiter, de me limiter, quoi.
Comment t'expliques que les homosexuels parlent beaucoup de leur sexualité?
C'est une obsession, au fait. Ce stéréotype d'homosexuel obsédé par la sexualité est vraiment une réalité et ça c'est très triste. Et on le remarque sur les applis. Sur les applis c'est vraiment direct. Il y a très peu de gens qui veulent discuter. Tout le monde veut vraiment du sexe. C'est un peu un truc qu'on est... Et en ce moment avec la PrEP, je sens aussi qu'on va plus vers les extrêmes. Avant on avait un peu peur. Enfin, je suis inclus dans ça. On avait un peu peur. On faisait très attention et tout ça. Après... Je parle de la majorité, parce que bien sûr, il y a des gens qui font partie d'autres catégories, on ne peut pas généraliser, mais la majorité a une certaine obsession du sexe, et je l'ai senti pendant le confinement aussi, parce que même sur les applis, je voyais qu'il y avait des mecs qui faisaient des rencontres, malgré le fait qu'ils savaient que c'est un peu dangereux pour leur santé, et qu'ils pouvaient attraper le virus, et tout. Donc c'est vraiment une obsession, il y a vraiment un besoin d'avoir beaucoup de relations sexuelles. Pour des personnes, c'est une validation de leur attirance, qu'on peut attirer encore des gens. Pour d'autres, c'est une validation de leur appartenance à cette communauté. Pour d'autres personnes, c'est vraiment un besoin. Ils n'aiment pas, par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas la masturbation, qui aiment vraiment pratiquer avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment plusieurs courants qui sont ensemble. Mais on a l'impression qu'avec la PrEP, avec la drogue, avec cette ouverture qu'on a acceptée maintenant et tout ça, les gens vont vers cet extrême de « allez, on va baiser, allez, on a envie de rencontrer, allez, on a envie de faire ça ». Plus les soirées aussi, ça aide les rencontres, les applis, le digital, ça aide les rencontres. Donc il y a plein de moyens maintenant qu'on a entre les mains qui nous aident à faire beaucoup de rencontres et de se dire « ah, je plais à ce mec, mais lui, il me plaît, mais pas trop, donc peut-être je peux trouver mieux, parce que je vois que sur l'appli, j'ai 300 autres options. Je vais dans une soirée, j'ai 3000 autres. Bon. Donc le monde a changé aussi, parce qu'on sent qu'on a accès à beaucoup de personnes, qu'on peut draguer beaucoup de personnes. Avant, le fonctionnement était complètement différent. on devait aller physiquement dans des endroits pour rencontrer. Là, de ton lit, sur ton appli, sur ton téléphone, tu peux rencontrer 400 personnes. Donc tout ça, ça a aussi changé un peu les normes, ça a aussi changé les fonctionnements, comment ça se passe, ça a changé notre manière de penser. Avant, je me disais, ah, bah, je pense qu'avant aussi, on était convaincus par des gens plus facilement parce qu'on les voyait à eux. Je veux dire qu'avant, les rencontres, c'était plus rare. Maintenant, les rencontres sont beaucoup plus fréquentes. Donc, tu peux rencontrer plein de gens. Donc, tu te dis, oui, ce mec est génial, mais il a ce défaut, peut-être je peux trouver mieux. Et l'appli te donne accès à d'autres personnes pour trouver mieux. Avant, tu te disais, ah oui, il a ce défaut, mais je vais l'accepter, parce que c'est difficile de rencontrer une autre personne, parce que je dois aller de nouveau au bar, prendre un verre, attendre une heure pour parler à une personne, ah, il me plaît, ah, il me... Et maintenant, c'est vraiment beaucoup plus simple, et ça casse un peu les limites même géographiques, puisqu'avant, le confinement et le fait qu'on pouvait pas voyager, on pouvait rencontrer sur les applis des gens qui viennent du monde entier. Tu pouvais changer ta localisation, mettre que tu es à Barcelone et rencontrer des gens de là-bas. Tu pouvais même préparer ton voyage avant d'aller à Barcelone et avoir des rendez-vous avec des mecs et tout ça. Donc les applis, elles ouvrent aussi un peu la porte à des options qui n'existaient pas avant. Et donc on est un peu dans l'embarras du choix. Et cet embarras du choix crée des problématiques sur les relations. Après, je ne sais pas si on peut dire que ça, c'est la réalité, mais ça, c'est en tout cas mon opinion, ma façon de voir les choses, quoi.
Je dirais que c'est en tout cas une problématique qui est similaire à celle des hétérosexuels. En tout cas, sur les applis de rencontre, les problématiques sont exactement les mêmes.
Mais moi, je suis d'accord et moi, je pense que chez les hétéros, ils ont les mêmes problématiques, mais en moins extrémistes. Parce que nous, les homos, parce que je pense qu'on avait l'habitude de tout lancer à l'extrême pour se faire accepter. On a pris cette habitude et même dans notre manière de s'habiller, de danser, de faire l'amour et tout ça, on va vers des extrêmes. Mais c'est les mêmes problématiques qui existent entre tous les êtres humains. Parce que moi, même mes amis hétérosexuels, ils ont du mal à trouver une vie de couple, ils ont du mal à trouver des partenaires réguliers, ils ont du mal. Les filles disent tout le temps oui, on rencontre que des mecs qui ont envie de baiser, qui n'ont pas envie d'une relation. Les mecs, ils disent oui, les filles, j'adore cette fille, mais je ne comprends pas si elle a envie d'un engagement ou pas. Donc c'est vraiment la même chose partout. Et en plus, les hétérosexuels, puisque parfois ils vont vers le mariage et tout ça, ils se sentent un peu emprisonnés dans une relation. Et même si la relation ne fonctionne pas, même s'ils ne vivent pas une relation assez saine et sympa, ils se retrouvent ensemble sans vraiment le vouloir. Donc du coup, c'est des fonctionnements qui sont pas sains et sont pas bien et tout ça. Donc c'est vraiment la même chose, mais qui sont vécues un peu différemment. Mais pour moi, ça revient au même. Ils me disent, ah, t'es homo, c'est pour ça que t'es pas en relation. Je dis, mais non, tous mes amis hétéros ne sont pas aussi en relation. Il y a des gens qui sont en relation, il y a d'autres qui ne sont pas. Il y a des gens qui sont dans des couples super fonctionnels, super sympas, homo et hétéro. En même temps, j'ai des amis hétéros qui sont dans des couples complètement dysfonctionnels. Et là, en France, je rencontre des hétéros qui ont aussi des délires sexuels qui sont pas très classiques, disons, comme les homos que je connais, je connais des hétéros qui sont dans l'échangisme, des hétéros qui sont dans le naturisme, des hétéros qui sont dans des pratiques un peu spécial et c'est sympa de voir qu'il y a une ouverture qui se passe aussi un peu partout, quoi.
Très bien, alors on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu peux juste nous dire en un mot pourquoi tu as accepté de témoigner sur ton histoire?
C'était le partage, au fait. J'aime bien partager mon histoire parce que je me dis que moi, il y a 11 ans, si j'ai entendu un podcast d'une personne qui racontait un peu sa vie, peut-être ça m'aurait aidé à accepter plus ma sexualité. Où ça m'aide à faire des réflexions sur des choses qui se passent autour de moi et tout ça. Donc j'avais envie quand tu m'as contacté, je te dis c'est sympa de partager un peu l'histoire. Donc voilà, c'est un peu une envie de partage.
Super, bah merci beaucoup Chris.
Merci à toi.
Donc c'est la fin de ce podcast, merci beaucoup, merci aux auditeurs qui nous ont écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode.